Chapitre 2. En ce premier vendredi du mois d'avril, Jane Hawke était confortablement installée dans l'un des box réservés aux usagers d'une bibliothèque de la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles. Comme les ordinateurs étaient désormais tous équipés d'un GPS, au même titre que les téléphones portables ou les tablettes, elle effectuait ses recherches dans des bibliothèques publiques, évitant soigneusement de consulter des sites placés sous surveillance. Dans sa volonté de dévoiler au grand jour la cabale montée par une coterie totalitaire solidement implantée à tous les niveaux de l'État et du secteur privé, elle s'était intéressée initialement à plusieurs personnes qu'elle soupçonnait de se trouver au sommet de la pyramide avant de s'apercevoir qu'il lui fallait remonter toujours plus haut si elle entendait identifier le véritable numéro 1 de la conspiration. À force de s'intéresser à quelques individus très riches, à la recherche d'un point commun entre eux, elle s'était aperçue que tous se présentaient comme des philanthropes, persuadés sans doute que leur générosité de façade était le plus sûr moyen de dissimuler leurs intentions sinistres. Les responsables du complot qu'elle entendait dénoncer étaient tous administrateurs des mêmes associations caritatives. Celui dont le nom revenait le plus souvent et dont elle avait récemment découvert l'existence, Renwright Warwick Hollister, était le plus riche de tous. Plus elle s'intéressait à lui, plus il lui paraissait suspect. La fondation de Renwright Hollister, destinée en apparence à financer la recherche contre le cancer, avait effectué des dons substantiels à l'association du docteur Berthold Schenck, le génie qui avait mis au point l'implant cérébral sur lequel comptaient les instigateurs de la cabale pour imposer leur absolutisme. Bingo. Nombre d'utilisateurs d'ordinateurs ou de smartphones finissaient par oublier dans quel monde ils vivaient. Selon le code couleur de Dean Cooper, qui mesure le niveau de vigilance de tout un chacun, les usagers habituels de la toile se trouvaient au stade blanc, alors que Jane, titulaire d'un diplôme de psychologie criminelle, formée pendant 18 semaines à Quantico et agent du FBI pendant 6 ans avant de partir en cavale, se trouvait en permanence au stade jaune, à la fois détendue et sur ses gardes, consciente de son environnement sans pour autant se sentir menacée à chaque instant. Cette vigilance permanente était le prix à payer pour ne pas basculer directement au stade rouge en cas de danger imminent. L'état intermédiaire, le stade orange, lui permettait de remarquer toute anomalie dans son environnement immédiat. C'est ainsi qu'elle prit conscience, dans son champ de vision périphérique, de la présence d'un homme, arrivé après elle, qui semblait s'intéresser davantage à elle qu'à son écran. Après tout, peut-être lui plaisait-elle. Ses cheveux dissimulés sous une perruque blond cendrée savamment déstructurée, ses yeux bleus grisés par des verres de contact, un faux grain de beauté de la taille d'un petit pois collé au niveau de la lèvre supérieure, ses traits lourdement maquillés, elle avait cessé d'être Jane Hawke pour devenir Leslie Anderson. D'apparence plus jeune qu'elle ne l'était en réalité, des lunettes rouges vives sur le nez, elle avait tout d'une étudiante appliquée. La fugitive la plus recherchée d'Amérique veillait soigneusement à éviter toute réaction furtive susceptible de la trahir, préférant attirer l'attention sur elle de façon discrète. On la voyait bâiller et s'étirer, on l'entendait marmonner des paroles inintelligibles face à son écran et s'adresser sans hésitation à quiconque entamait la conversation, sûr qu'aucun citoyen ordinaire ne reconnaîtrait, derrière la silhouette de Leslie Anderson, l'ennemi public numéro un que les médias avaient surnommé « le beau monstre ». Mais son voisin s'intéressait à elle d'un peu trop près. À deux reprises, en jetant un coup d'œil dans sa direction, elle l'avait vu détourner précipitamment le regard et feindre de se concentrer sur ses recherches. L'homme, avec son teint couleur caramel, ses cheveux noirs et ses grands yeux sombres, était d'origine indienne. Doté d'un visage rond et sympathique, il avait une quinzaine de kilos en trop. Dans les 25 ans, il portait un pull jaune et un pantalon de toile. Tout en n'ayant rien d'un policier ou d'un agent d'un service de renseignement, il la mettait mal à l'aise. Très mal à l'aise. Jane avait appris à ne jamais museler la petite voix dans sa tête qui lui avait si souvent sauvé la vie, ce qui l'incita à passer au stade orange. Deux possibilités s'ouvraient à elle. affronter l'ennemi ou bien s'enfuir. La seconde solution était presque toujours la plus sûre, la première menant presque invariablement au stade rouge, synonyme de violence. Jane quitta le site auquel elle s'intéressait, effaça son historique de recherche, éteignit l'ordinateur, ramassa son cabas et quitta son box. D'un coup d'œil par-dessus son épaule, elle vit l'inconnu rondouillard se lever et l'observer en parlant dans son téléphone, un objet indéterminé dans son autre main. Elle venait à peine de pousser la porte de la bibliothèque qu'elle découvrait sur le parking la présence d'un autre inconnu en pleine conversation téléphonique près de l'endroit où elle avait garé son Ford Explorer Sport gris métallisé. Grand, mince, vêtu de noir, il se trouvait trop loin pour qu'elle puisse distinguer son visage. Mais le long imperméable qu'il avait endossé par cette journée ensoleillée de printemps pouvait dissimuler un fusil à canon scié, ou bien encore un taser X-Rep de calibre 12, conçu pour envoyer à 30 mètres des projectiles électroniques capables d'immobiliser n'importe quel adversaire. L'homme avait des allures d'assassin échappé d'un film d'anticipation. L'Explorer, un véhicule volé, avait été dépouillé de toute trace de son identité réelle avant d'être équipé d'un moteur Chevy 502 de 700 chevaux. Jane l'avait acheté à un trafiquant de Nogales, en Arizona, qui ne conservait aucune trace de ses transactions. Il était donc impossible que l'on ait pu remonter jusqu'à elle grâce à ce 4x4. Elle rentra aussitôt à l'intérieur du bâtiment et se faufila entre les rayonnages. Le labyrinthe de la bibliothèque n'avait pas de secret pour elle, puisqu'elle avait pris la précaution de repérer soigneusement les lieux à son arrivée. Elle se dirigea vers une porte donnant sur un couloir sombre dans lequel flottait une odeur de café. Elle découvrit plusieurs bureaux, des réserves, une salle de repos équipée d'un réfrigérateur. Un couloir adjacent lui permit de gagner l'issue donnant sur le parking réservé aux employés, au-delà duquel s'ouvrait une ruelle. Trois voitures et un Chevy Tahoe étaient garés là lorsqu'elle avait fait son repérage un peu plus tôt. Ils avaient été rejoints depuis par un Escalade blanc au volant duquel se trouvait une femme, dont l'apparence rappelait celle de l'inconnu qui la surveillait lorsqu'elle effectuait ses recherches sur le net. L'intéressé, un portable collé à l'oreille, arrêta aussitôt son regard sur Jane. En situation de crise, la meilleure solution est encore la fuite. Fidèle à ce principe, Jane contourna l'escalade et se dirigea vers la ruelle. Les immeubles voisins dessinaient sur le bitume des ombres crénelées, dans lesquelles elle se réfugia du mieux qu'elle le pouvait. Elle aperçut un peu plus loin un parc que bordait la cour grillagée d'un jardin d'enfants. Elle allait atteindre le parc dont les palmiers se balançaient doucement sous l'effet de la brise, lorsque l'homme en imperméable apparut brusquement. Il venait à sa rencontre d'un pas nonchalant, persuadée qu'elle ne pouvait plus lui échapper. Les issues de secours des commerces alignés le long de la ruelle étaient identifiées à l'aide de pancartes. Une boutique de cadeaux, un restaurant, une papeterie, un autre restaurant. Tous les bâtiments étaient mitoyens, aucun passage de service ne les séparait les uns des autres. Voyant qu'un véhicule s'immobilisait à l'extrémité de la ruelle, lui barrant le passage, Jane ne prit même pas la peine de se retourner. Elle savait déjà que l'escalade bloquait l'entrée de la Venelle. Pressant le pas, elle tenta d'ouvrir les issues de secours l'une après l'autre. La troisième, celle d'un magasin de photos, n'était pas verrouillée. Elle s'engouffra dans un couloir qu'éclairait chichement des impostes, révélant une réserve aux étagères vides. Lorsqu'elle voulut repousser le verrou, elle s'aperçut qu'il était cassé. Le lieu était abandonné, et elle sut instantanément qu'elle s'était laissée piéger.